en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, cette émission se propose de rendre hommage à l'historien Pierre Chaunu de l'Académie des sciences morales et politiques, hommage qui lui revient au regard de l'immense legs qu'il a laissé à l'histoire grâce à son œuvre monumentale. Le recteur Gérard-François Dumont, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, a organisé au Collège des Bernardins à Paris, le mercredi 10 février 2010, une soirée émouvante où la haute figure de Pierre Chaunu a été évoquée par plusieurs personnalités, les historiens Emmanuel Leroy-Ladurie, son confrère à l'Académie, François Dosse et Bernard Cotteret. Et à l'initiative du recteur Gérard-François Dumont et de Chantal Delsol de l'Académie des sciences morales et politiques, se sont donc retrouvés une centaine de proches, d'élèves, d'amis de Pierre Chaunu au Collège des Bernardins, au lieu parisien de recherche et de débat pour l'Église et pour la société, initié selon les vœux du cardinal Lustiger, qui était membre de l'Académie française. Bonjour, monsieur Dumont.
Bonjour, chère madame.
Plusieurs membres de l'Académie des sciences morales et politiques assistaient à cette soirée, parmi lesquels le secrétaire perpétuel, monsieur Michel Albert, Jean Ménard, Bertrand Saint-Sernin, Lucien Israël, pour honorer la mémoire de leurs confrères, car Pierre Chaunu avait été élu le 11 janvier 1982, dans la section Histoire et Géographie, bien sûr, succédant à d'éminents historiens, de Guizot à Lucien Febvre, qui ont fait partie de l'Académie. Et Pierre Chaunu nous a quittés le jeudi 22 octobre 2009. Tout d'abord, un mot personnel, monsieur le recteur. Vous êtes géographe, vous enseignez la géographie physique, humaine, économique et régionale. Quelle relation, vous, géographe, entreteniez-vous avec Pierre Chaunu, historien ?
J'ai entretenu des relations surtout avec Pierre Chaunu en tant qu'historien de la population. J'ai eu effectivement la chance que Pierre Chaunu m'honore de son amitié pendant un tiers de siècle. Donc je considérais qu'il n'était que juste que je lui rende hommage. Je lui avais déjà rendu hommage lorsque j'ai été élu il y a 22 ans à la Sorbonne. J'avais commis une chronique en hommage à mes deux maîtres, Pierre Chaunu et Alfred Sauvy. Même si je n'ai jamais été leur élève au sens universitaire du terme. Donc c'est vrai qu'étant géographe, d'un autre côté, je m'intéresse quand même aussi à la géographie historique, qui est très proche de la géographie. Et puis je me disais que le monde de l'histoire est un monde extrêmement vaste. On sait qu'il y a des querelles de méthode, des querelles sur la priorité à donner à telle ou telle branche historique. Et finalement, comme je ne suis pas impliqué dans les querelles entre historiens, je me suis dit que je pouvais oser rendre hommage à Pierre Chaunu en ne risquant pas l'opprobre des historiens, puisque je ne fais pas partie formellement de leur caste.
Lors de cet hommage, vous avez commencé par expliquer que la connaissance historique, c'est comme une grande mer, M-E-R, nourrie de fleuves de tailles diverses, que tous les fleuves ont chacun leur intérêt, il n'y en a pas d'inutile, mais vous avez qualifié Pierre Chaunu, et je vous cite, de grand fleuve nourricier. Alors pouvez-vous expliquer cette image ?
Bien, mon image est extrêmement simple. Il est tout à fait justifié de rendre hommage à tout universitaire qui disparaît, mais pourquoi rendre un hommage tout à fait particulier à Pierre Chaunu ? La raison fondamentale, c'est que dans cette mer de la connaissance historique, nous avons d'abord donc ces petits fleuves qui sont des historiens locaux qui apportent des éléments indispensables à cette connaissance historique. Nous avons des moyens fleuves, c'est-à-dire des historiens qui s'intéressent soit à une période précise de l'histoire, soit à une région spécifique dont ils approfondissent l'histoire et qui sont absolument indispensables. Et puis il y a quelques grands fleuves, c'est-à-dire des historiens qui sont capables d'embrasser le temps long de façon plurimillénaire ou bien qui sont capables d'embrasser à la fois du local jusqu'au planétaire. Bon, je dirais, sans vouloir citer de noms, que dans le dernier siècle qui vient de s'écouler en France, nous avons ainsi une dizaine de grands fleuves, et l'un de ces grands fleuves était Pierre Chaunu.
Et vous avez d'ailleurs présenté Pierre Chaunu par les legs qu'il a laissé à l'histoire. Alors, vous en avez cerné 10, ces 10 legs, mais bien sûr, il y en aurait sans doute d'autres tant son œuvre est immense. Mais si vous voulez bien, on va les reprendre les uns après les autres. Alors, quel fut ce premier leg de Pierre Chaunu à la science historique ?
Je voudrais rappeler que ce n'est pas volontairement et a priori que j'avais décidé de trouver 10 legs dans l'œuvre monumentale de Pierre Chaunu.
Non, c'était pour bâtir votre discours.
C'est en analysant toute cette œuvre que je suis arrivé à ce chiffre de 10 et j'ai trouvé que, en mémoire à Pierre Chaunu, qui a été notamment le prédicateur du temple de Courcelles-sur-Mer et donc très attaché à la Bible, c'était un chiffre qu'il aurait apprécié. Alors, le premier leg auquel j'ai pensé, c'est tout simplement l'intérêt de Pierre Chaunu pour la France. Il est peu connu que le premier livre de Pierre Chaunu, qu'il écrit à l'âge de 25 ans, est un ouvrage sur Eugène Sue et la Deuxième République. Et donc cette France dont il s'intéresse très jeune, il va ensuite revenir sur son questionnement historique, tout particulièrement avec deux livres, un publié en 1988 qui s'intitule « L'obscure mémoire de la France » et qui est sous-titré « De la première pierre à l'an 1000 ». J'insiste aussi sur le fait que ce livre est dédicacé à la mémoire de Fernand Braudel, toujours présent, toujours vivant.
C'était un de ses élèves, Chaunu, ou c'était un confrère ?
C'était vraiment son élève. Dans une large mesure. Et puis, bien entendu, compte tenu des commémorations historiques de la France, en 1996, donc Chaunu a publié un autre livre essentiel sur la France qu'il a appelé « Baptême de Clovis ». Baptême de la France, vous voyez, tout est dit dans ce titre de sa pensée historique.
Et pourtant, il ne s'est pas intéressé, et d'ailleurs, il n'a pas commencé ses grandes études historiques par la France, puisque sa thèse, c'était plutôt l'Espagne.
Effectivement, et là, c'est un peu Braudel qui l'a poussé vers ses recherches, qui vont donc débuter par un travail de thèse sur Séville et l'Atlantique, titre de sa thèse, un titre qui lui permet donc d'embrasser à la fois l'histoire de l'Espagne, l'histoire de l'Amérique latine, pendant cette période historique essentielle qui va suivre les découvertes de Christophe Colomb. Alors, c'est une thèse exceptionnelle, non seulement par son contenu, mais surtout par son importance, puisqu'elle fait quand même 7343 pages. Je dis bien 7343 pages.
Quel a été l'apport de Chaunu dans cet énorme travail?
Alors,
sur cette
période? Cet apport est tout à fait considérable dans la mesure où il a étudié à Séville même, d'ailleurs avec l'aide de son épouse, Huguette Chaunu, des archives qui se trouvaient à Séville et qui n'avaient jamais été exploitées pour la connaissance historique de cette période. Mais pour Pierre Chaunu, l'historien, l'une des révélations de sa thèse et qu'il n'avait pas anticipé, c'est la découverte des évolutions démographiques en Amérique latine à la suite de la colonisation espagnole. En effet, cette région du monde a été marquée par ce qu'il appelait un collapsus démographique, c'est-à-dire une baisse très importante de la population de l'Amérique latine. Parce que les Espagnols arrivant en Amérique latine étaient accompagnés aussi de microbes et nous avions des habitants de l'Amérique latine qui n'avaient pas la résistance à ce type de microbes. Et donc, la baisse de population de l'Amérique latine a été moins causée par les exploits du colonisateur, les exploits militaires du colonisateur, que par un choc microbien. Et ceci a révélé à Chaunu l'importance de la démographie dans l'histoire, ou du moins lui a confirmé cette importance.
Que la démographie est un outil historique qui jusqu'à présent n'avait pas été véritablement utilisé?
Eh bien, effectivement, dans l'histoire de la démographie, nous avions eu beaucoup d'économistes qui se sont intéressés à la démographie, mais les historiens avaient été relativement peu présents. Pourquoi? Parce que la démographie, c'est aussi la connaissance d'un certain nombre de chiffres. Et l'histoire, disons, avec sa formation aux humanités, parfois trouvait les chiffres un peu rébarbatifs.
Alors, Alors, le troisième legs, c'est toujours l'Espagne, au fond, parce que Chenu a beaucoup écrit.
C'est la suite du deuxième. Si vous permettez. Et effectivement, s'étant intéressé à Séville et à l'Atlantique, il était obligé de s'intéresser à l'Espagne. Et s'intéressant à l'Espagne, eh bien, il a tout simplement réalisé que les dirigeants espagnols de l'époque, et notamment Charles Quint, étaient tout autant des dirigeants européens. Hein, ce qui l'a conduit, inévitablement, à étudier la civilisation de l'Europe, à étudier la civilisation de l'Europe des Lumières ou à écrire sur Charles Quint. Et c'est là que nous débouchons effectivement sur un troisième legs qui est toute l'œuvre de Chenu qui est consacrée à l'histoire de l'Europe.
Alors, passons au quatrième legs que vous avez identifié, qui est peut-être un petit peu plus ouvert, plus différent.
Effectivement, si Chenu, Pierre Chenu, donc fait de l'histoire, ce n'est pas uniquement, selon lui, à des fins spéculatives. Il considère que la recherche historique doit être utile, je dirais, à l'honnête homme ou à l'honnête femme du XXe siècle. Et il le formule de façon excellente dans l'une de ses phrases que je me permets de citer. « J'étais parvenu à me persuader qu'une connaissance plus étendue du passé pouvait servir peut-être à une avancée vers un moindre mal. Et donc, écrit Chenu, je ne sépare pas le passé de l'avenir. » Et donc, le quatrième legs de Chenu consiste à se dire que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du passé, on s'intéresse aussi à l'histoire du futur, et donc que la prospective est un élément essentiel de l'apport historique, ce qui va le conduire notamment à publier deux livres sur cette question. En 1975, un livre intitulé « De l'histoire à la prospective », et il faut notamment citer le sous-titre « La méditation du futur, c'est la connaissance du présent ». Et plus récemment, donc à l'heure de ses 80 ans, en 2003, dans un essai de prospective démographique qui se veut effectivement une amélioration de la connaissance de l'évolution de nos sociétés.
Et il s'inquiétait pour l'évolution démographique de l'Europe, par exemple ?
Alors, effectivement, donc, Pierre Chenu, suivant les courbes démographiques, a constaté, dès les années donc 1970, la baisse de fécondité en Europe. Et il approfondissait un autre élément, c'est l'évolution de la population mondiale. Il faut rappeler à nos auditeurs que lorsque nous sommes dans les années 60 ou au début des années 70, les Américains publient des livres qui sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires où ils expliquent les catastrophes qui vont arriver pour l'an 2000. Et la catastrophe essentielle que craignent les Américains, c'est la catastrophe démographique, parce que selon eux, eh bien, il va y avoir une surpopulation de la planète qui va déboucher sur un an 2000 où la civilisation va s'effondrer. Or, Pierre Chenu, lui, il a lu les bons auteurs. Il a lu Adolphe Landry, qui dès 1934 avait expliqué le mécanisme de la transition démographique. Bien sûr, Pierre Chenu connaît les œuvres aussi d'Alfred Sauvy. Et il est donc, à cette époque du début des années 70, un des rares à comprendre que le monde n'aura pas les chiffres apocalyptiques annoncés par un certain nombre d'Américains renommés, mais qu'au contraire, on va vers une régularisation planétaire de la démographie. Donc, c'est un premier constat de sa part. Le deuxième constat, il est la conséquence de son travail de thèse et il le formule dans une phrase tout à fait excellente que je me permets de vous lire, qui est courte, vous allez voir. « Les graphiques des naissances me paraissent plus sûrement annonciateurs que les tendances du Dow Jones, du Nikkei et du CAC 40. » Donc, par cette phrase, Pierre Chenu dit « Mais la démographie, c'est l'essentiel. C'est ce qui fait le fondement de l'évolution des sociétés. » Or, la société européenne, dans ces années 70, connaît une baisse de sa fécondité très rapide vers ce que moi j'ai appelé donc un hiver démographique, c'est-à-dire une fécondité durablement abaissée. Et donc, il va participer à l'écriture de livres pour essayer d'expliquer ce phénomène. Et notamment, et d'abord, un livre qu'il appelle « Analyse historique du présent, le refus de la vie en 1975 ». Il publie ensuite un livre qui s'intitule « La peste blanche » avec Georges Suffert. et s'intéressant à la vie, il s'intéresse aussi à la mort avec son livre sur la mort à Paris en 1978. Et c'est à ce moment-là, alors que j'ai eu la chance de le rencontrer 2 années précédemment, que je le contacte pour lui proposer d'écrire un livre montrant les risques d'une incompréhension des phénomènes démographiques en France. Alors, je le sollicite dans la mesure où Pierre Chaunu est considéré à droite dans l'échiquier politique, sans que cela ait une signification politicienne, à mon avis. Et je sollicite en même temps Alfred Sauvy, qui a commencé là aussi de m'honorer de son amitié et qui est considéré à gauche dans l'échiquier politique français. Je trouvais donc bien d'associer ces deux hommes et ils me donnent leur accord et nous publions donc ensemble un livre qui s'appelle « La France ridée » afin de lutter contre le refus de voir, afin, selon la formule d'Alfred Sauvy, de prévoir pour ne pas voir, prévoir le pire de ce qui pourrait arriver pour justement qu'on fasse en sorte qu'il n'arrive pas. Donc c'est ce legs important qui traverse aussi l'œuvre de Chaunu, l'ensemble de ce legs sur les données démographiques.
C'est ce qui explique aussi ses prises de position, car ce n'était pas seulement un historien, c'était aussi un homme engagé, presque militant pour un certain nombre de positions, notamment contre l'avortement, justement sans doute à cause des raisons que vous venez d'expliquer.
Tout à fait. Alors c'est un moment important dans l'histoire de la vie de Pierre Chaunu, parce que Pierre Chaunu est bien entendu à cette époque du début des années 70 très connu dans le monde de l'histoire compte tenu de ses travaux fondamentaux. Mais à partir du moment où il va entrer, je dirais, en démographie du moins, par des livres dont je viens de rappeler les noms, eh bien il va être connu du grand public. Et ça, c'est un changement effectivement fondamental, c'est-à-dire que Pierre Chaunu atteint une notoriété, alors une notoriété qui, évidemment, entraîne quelques reproches de la part d'historiens qui se galvaudent dans le débat public. Mais Pierre Chaunu considère que l'homme est un tout, que chez lui, on ne peut pas séparer l'historien, le chercheur, du pédagogue ou du croyant. Pour lui, tous les aspects de l'homme qu'il est sont intimement liés. Et c'est la raison pour laquelle il nous a livré un autre legs qui sont ses livres où il essaye d'expliquer son itinéraire, où il explique aussi le caractère passionné. Parce que Pierre Chaunu, c'était vraiment un passionné de la vie, de l'histoire, de la recherche. Et je voudrais citer en particulier 3 de ses livres qui me paraissent extrêmement intéressants pour la connaissance de l'homme Pierre Chaunu, mais aussi de son œuvre. D'abord, La mémoire de l'éternité, en 1975, qui est en fait un livre de mémoire, comme son titre l'indique. Un autre livre qui, à mon sens, est peut-être le plus prodigieux de son œuvre, qui s'intitule La mémoire et le sacré, en 1978. Et puis, il faut ajouter ce livre d'échange extrêmement intéressant de 1994, intitulé L'instant éclaté, où Pierre Chaunu dialogue avec un historien qui vient d'un itinéraire totalement différent du sien, qui est François Doss.
Qui participait justement à cette soirée qui lui rendait hommage. Dans cette soirée, justement, on a rappelé que Pierre Chaunu était lorrain d'origine, donc de cette terre qui a connu bien des souffrances. Et quelle importance attachait-il à la terre natale, à la région natale, à la famille? Est-ce qu'il était impliqué dans ce combat aussi?
Il est certain qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Pierre Chaunu sans examiner son histoire personnelle. Et le fait qu'il est né donc quelques années après la Première Guerre mondiale, dans cette terre lorraine qui avait été meurtrie par la guerre, qui se trouvait donc dépeuplée par la guerre, l'habitait à quelques kilomètres de Verdun, et par le fait qu'il a été orphelin de mère très rapidement, et donc élevé par une tante, et qu'il a vécu donc son enfance dans une région désastrée par la guerre, et en compagnie de personnes âgées et non pas de jeunes. Donc il a eu toujours ce souci qui était inscrit dans son inconscient et ensuite dans sa conscience qu'il fallait, j'irais, une bonne pyramide des âges pour une bonne dynamique pour un territoire. Donc le Lorrain est un élément important de sa vie que nous avons évoqué, je dirais, sans le citer tout à l'heure, parce que l'intérêt qu'il a eu pour Charles Quint peut être lié aussi à ce côté lorrain, bien entendu.
Bien sûr, les terres d'Empire.
Mais le lorrain, bon, l'histoire de sa carrière universitaire, donc, le conduit à être professeur à l'université de Caen, ville à laquelle il va rester extrêmement attaché, puisqu'il restera habité à Caen jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, il considère aussi de son devoir de rendre hommage à la Normandie. Et donc, c'est un septième legs important de Chaunu. C'est le travail qu'il a fait à la fois sur l'histoire de la Normandie et peut-être plus encore pour stimuler le renouveau de l'histoire de la Normandie et pour stimuler des historiens normands.
Et Pierre Chaunu, qui était non seulement d'une grande créativité, capable d'écrire et de beaucoup écrire, avait aussi une grande générosité et il offrait beaucoup d'articles, de préfaces, de notes qui ont été un peu dispersées dans son œuvre. Alors comment ça va pouvoir se rassembler tout cela ?
Alors effectivement, là c'est une difficulté. Nous avons des éléments positifs et des éléments négatifs. Il y a des éléments positifs dans la mesure où Pierre Chaunu lui-même, de son vivant, s'est rendu compte que c'est les différents articles qu'il avait publiés dans de nombreux périodiques étaient difficiles à réunir. Et donc, il a fait l'effort lui-même de publier plusieurs livres où, selon un classement thématique, il réunit des articles divers. C'est notamment le cas d'un livre qu'il a appelé « Pour l'histoire » en 1984 et d'autre part en 1988, d'un livre qui s'intitule « Apologie pour l'histoire ». Et ce sont des livres très importants parce qu'ils nous permettent justement de trouver dans un document unique des préfaces, des articles dispersés. Néanmoins, compte tenu de la profusion de l'œuvre de Pierre Chaunu, il y a encore un certain nombre de textes qui sont dispersés.
Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure aux trois dimensions du personnage Chaunu qui sont inséparables, dont la dimension de l'homme croyant. Est-ce que ça aussi, c'est un legs de Chaunu, cet aspect-là ?
C'est évidemment un legs de Chaunu, dans la mesure où Chaunu, il faut le rappeler, donc s'est converti au protestantisme. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, sur son épée d'académicien, il avait mis un symbole pour rappeler cette conversion. Et effectivement, Chaunu a voulu, par un certain nombre de textes, à la fois souligner l'importance de la dimension spirituelle de tout homme et souligner qu'on ne peut pas comprendre l'histoire sans étudier la dimension spirituelle. C'est ce qu'il explique dans une phrase que je vais vous lire, qui me paraît résumer sa pensée. Les réflexions et représentations sur l'au-delà de la mort sont plus opérationnelles que la lutte dite des classes ou le cours du Brent à Rotterdam. Ceci justifie que l'historien s'intéresse au transcendant. Et puisque l'historien doit s'intéresser au transcendant, eh bien Chaunu nous a livré notamment deux livres. En 1990, un livre qui s'appelle « Dieu Apologie » et en 1992, « Une brève histoire de Dieu », des livres qui concernent en fait, je dirais, l'identité de la personne en opposant cette formule que je viens d'utiliser à l'identité de l'individu. Et ces questions identitaires, il a travaillé dessus pas seulement au niveau de la personne, mais également au plan de la société et notamment écrit un livre sur la liberté en 1987 sur donc ce thème de l'identité.
Alors Gérard-François Dumont, nous abordons maintenant le dernier, le dixième legs, si on peut dire, de Pierre Chaunu, c'est-à-dire sa fécondité, au fond. Maintenant, il est parti, il n'est plus parmi nous, son œuvre nous reste. Je suppose qu'elle va alimenter de très nombreux chercheurs.
J'en suis absolument convaincu parce que Pierre Chaunu, outre ses legs dus à sa recherche historique, à sa puissance d'analyse et de réflexion des hommes, des sociétés ou de la transcendance, nous a laissé en outre un dixième legs tout à fait essentiel, c'est-à-dire une méthode historique. Et Pierre Chaunu est sinon l'inventeur, mais l'un des inventeurs principaux d'une méthode qu'il a appelée l'histoire sérielle, notamment dans un livre intitulé en 1978 « Histoire quantitative, histoire sérielle ». C'est-à-dire qu'il souligne combien l'histoire peut s'enrichir de l'étude des séries de données, qu'il s'agisse de données démographiques, de données historiques, pour la connaissance des sociétés et du passé. Et cette méthode est importante parce qu'elle montre combien on peut mieux approfondir la connaissance du monde et dans quelle mesure il est possible, grâce aux données sérielles, d'embrasser le temps long de l'histoire. Alors cela l'a conduit par exemple à deux livres fondamentaux. L'un se place plutôt dans une période qui ne couvre pas la totalité de l'histoire de l'humanité, mais qui couvre la totalité de la planète. Ce livre qui s'appelle « Histoire, sciences sociales » en 1974, qui parle de la durée de l'espace et de l'homme à l'époque moderne, mais qui nous parle donc de toutes les civilisations de cette période. Et je voudrais citer aussi un livre qui, lui, embrasse toute l'humanité depuis son origine et qui s'intitule « 3 millions d'années », sous-titré « 80 milliards de destins », où Chaunu donc nous brosse toute l'histoire de l'humanité depuis l'origine. Et également, je crois que c'est l'année où l'Académie des sciences morales et politiques avait choisi comme thème le temps, qu'il va décider de publier un livre intitulé « L'axe du temps » en 1994. Donc, dans la mesure où cette méthode de l'histoire sérielle reste un outil tout à fait fondamental pour les historiens, il faut effectivement souhaiter, bon, même si elle est, comme toute méthode, elle a des périodes où elle est plus utilisée que d'autres. Il faut souhaiter qu'elle soit davantage utilisée au profit de la connaissance historique dans les années futures.
Gérard François Dumont, avant de nous quitter, si vous le permettez, je voudrais citer une phrase du père Antoine Guggenheim, qui est le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins à Paris, où avait lieu cet hommage que vous aviez organisé. Et le père Guggenheim définit Chaunu de la manière suivante. « Esprit rigoureux et vigoureux. Pierre Chaunu pratiquait l'histoire et en faisait le récit dans la plus exacte fidélité aux données de son enquête et dans la conviction sans cesse ressourcée que le cœur de l'histoire est spirituel et religieux. » C'est vraiment pour vous une bonne définition de l'approche de Chaunu?
Alors, c'est un excellent résumé de ce qu'était à la fois l'homme, l'œuvre et en même temps la personne. Donc je crois que c'est un excellent résumé que l'on retrouve d'ailleurs, alors formulé de façon évidemment plus courte, dans le livre de mélange qui avait été offert à Pierre Chaunu donc en 1993, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Madeleine Foisil, puisque ce beau livre de mélange s'intitulait « La vie, la mort, la foi ». Donc nous avons dans ces trois mots, effectivement, trois termes essentiels de cette pensée à la fois unique de Pierre Chaunu, mais enrichie de la connaissance de ces différents éléments.
Gérard François Dumont, je vous remercie infiniment de vous être déplacé jusqu'au studio de Canal Académie. Merci, monsieur Dumont. À bientôt.
Merci.
Quelques mois avant sa mort, Pierre Chaunu avait eu la gentillesse de recevoir Canal Académie à son domicile à Caen, pour s'entretenir avec notre collaboratrice Marianne Durand-Lacaze. Nous avons choisi de vous faire écouter maintenant quelques-unes de ses phrases les plus personnelles. Retrouvez la voix de Pierre Chaunu et partagez avec nous ce moment émouvant.
Je suis d'abord un universitaire. J'ai été, je crois, un bon professeur. J'étais très passionné. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont d'ailleurs fait des thèses avec moi. Et donc, maintenant, je suis très peu un académicien. Je suis un professeur, si vous voulez, à la rigueur. J'ai été professeur de lycée, d'abord, et puis j'ai été ensuite à Caen, et puis assez rapidement à Paris 4. Paris 4, qui était, disons, l'université plutôt conservatrice, et peut-être aussi un peu religieuse. Donc voilà, je suis un homme de foi, à cheval entre le catholicisme et le protestantisme. Je suis très attaché, je suis un chrétien, ça, je le revendique. Je suis surtout chrétien et, mon Dieu, tous les jours, je parle avec Dieu, quoi. La première chose que je fais en me levant, c'est de me tourner vers lui, et puis je sais pas ce qu'il en pense, remarquez, hein. Il ne me répond pas beaucoup, mais enfin quand même, je lui parle beaucoup. Les ouvrages qui ont compté quand même dans ma vie, ce sont d'ailleurs mes thèses, et c'est évident que Séville et l'Atlantique, mais Séville, ça, c'est presque ma deuxième vie, je suis presque un Sévillan, et j'ai toujours été frappé par cette découverte de l'Amérique, cette exploration du monde au XVIe siècle. Et si, dans le fond, il y a une... Je dirais que si je n'étais pas français, je serais espagnol. C'est ma seconde patrie. Caramba ! Vous passez à si près que le chapeau tomba et que le cheval fit en écart en arrière. Et ça, c'est quand même le Victor Hugo qui dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup Victor Hugo, mais finalement, j'aime bien cet angle-là. Par conséquent, voilà. Je me sens tout à fait européen, et de toute manière, je crois beaucoup, si vous voulez. Et il y a une chose d'ailleurs qui me frappe, c'est que c'est, je dirais, la puissance maîtresse du monde. Longtemps, ça a été les États-Unis. C'est un immense pays, bien sûr. Mais il y a quand même une chose qui s'est produite un peu. Je crois que la force des États-Unis, c'était l'émigration européenne. Et depuis qu'il n'y a plus à proprement parler de cette émigration, alors j'ai vu reparaître l'Europe. Et il est certain que je suis très attaché à l'Europe, à l'Union européenne, et particulièrement à cette réconciliation entre la France et l'Allemagne. La seule langue que je prononce correctement, c'est l'allemand, en dehors du français. Mais le pays que je préfère naturellement après la France, c'est l'Espagne, parce que je suis quand même très très marqué par, et en même temps par la grande aventure des Espagnols à travers le monde. C'est difficile de juger ce qu'on a fait. Il est incontestable que ce qui compte dans ma vie, quand même scientifique, ça a été l'histoire quantitative. Et parce qu'en réalité, j'ai toujours été à cheval entre finalement les lettres et les sciences, et la science. Et donc, dans une certaine mesure, si je n'avais pas eu des professeurs de mathématiques détestables, j'aurais très certainement fait une carrière scientifique. Je n'avais pas une base mathématique. Et d'autre part, j'aime pas tellement les mathématiques à l'état pur. Je suis beaucoup plus attiré par la physique, par la chimie, etc. Mais pratiquement, j'aurais pu faire une carrière scientifique. Et c'est en fond la raison pour laquelle Séville et l'Atlantique et le Pacifique des Ibériques, si vous regardez, c'est quand même beaucoup de chiffres, c'est de la statistique. Et en fond, ma grande ambition, ça a été de faire remonter dans l'histoire la partie quantitative. Plus qu'un littéraire, je suis quand même un scientifique. Étant donné justement moi, mon passé, etc., je pouvais être à la fois... je préférais aller au culte à... Et même j'ai fait pendant plusieurs années le culte à Courcelles, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'étais hostile aux catholiques. Je les connaissais, je les estimais. Autrement dit, j'estimais que tout ça, bon, c'était des choses... On pouvait être plutôt catholique ou être plutôt protestant, mais que de toute façon, on était d'abord des chrétiens. Et que, à la limite, ce sont des détails, l'histoire, on peut se sentir un peu plus attiré, justement, par le catholicisme, ou un peu plus attiré par la réforme, ce qui avait été mon cas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on était hostile à l'égard des autres, et qu'on savait qu'avant tout, il y avait des chrétiens, et que dans une certaine mesure, que peut-être c'était même une sorte de richesse. Par exemple, j'ai été ravi d'apprendre l'élection de Ratzinger. Un pape comme ça, au moins, c'est à la fois un gain pour l'ensemble du monde, de la chrétienté. J'étais ravi, Mais alors, je dis, mais vous rendez compte, c'est une chance que nous avons, parce qu'il est incontestable que le pape est un personnage très important. Et je crois que, je dis que naturellement, si j'avais été cardinal, j'aurais voté pour Ratzinger, c'est évident.
Je vous propose d'écouter maintenant la lecture faite par Fernand Guillot du texte qu'a rédigé Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques, historien lui aussi et confrère de Pierre Chaunu, un texte qui s'intitule « Pierre Chaunu, un grand maître baroque et protestant ».
Qui était Pierre Chaunu ? Avant tout, un grand historien et un chrétien. Son apport scientifique à notre discipline fut considérable. Membre de l'école des Annales, il en représentait, si je puis dire, le côté œcuménique. Il a débuté comme disciple de Fernand Braudel, spécialiste du monde ibérique. Chaunu a naturellement prolongé les travaux de son maître en abordant le trafic maritime espagnol sur l'Atlantique au XVIe siècle. Le résultat fut une très belle étude, énorme, un peu trop énorme, disait-il lui-même, réalisée avec l'aide de son épouse Huguette d'après les archives espagnoles. Ce travail lui a apporté une vaste renommée. Mais l'on oublie souvent que le Galion de Mani, l'un de ses meilleurs livres, est consacré à l'étude du Pacifique. Converti au protestantisme, il appartenait à une tendance calviniste, bien sûr, héritée des grandes traditions de la Réforme, ce qui n'empêchait pas de coexister avec les tendances plus modernistes. Sa conversion lui a donné une approche empathique, voire dépassionnée, quant aux phénomènes religieux. Ses ouvrages sur la Réforme protestante et la Réforme catholique sont des monuments de l'historiographie et de l'histoire des religions. Chaunu a consacré l'essentiel de sa première carrière à l'histoire économique. À l'université de Caen, il a fondé le Centre d'histoire quantitative. À la Sorbonne, Paris IV, il est devenu un maître incontesté de cette discipline. Mais son talent et son appétit de travail lui permettaient d'embrasser bien d'autres domaines. Il a écrit plusieurs ouvrages très importants sur notre vieux continent. Je pense à la civilisation de l'Europe des Lumières, où il rappelle qu'existent, c'est connu, des lumières anticatholiques, mais aussi, ce qui est moins connu, des lumières chrétiennes, catholiques, initiées par Colbert et Louis XIV, à qui l'on doit l'Observatoire de Paris. Ce livre est venu à point pour équilibrer une historiographie savante, mais parfois passionnelle. Il a également évoqué dans la civilisation de l'Europe classique les bases économiques, sociologiques, religieuses, mais aussi scientifiques de notre civilisation. Chaunu se référait à Newton et croyait au monde écrit en langage mathématique. Pierre Chaunu était également un démographe. Ses travaux portaient essentiellement sur la mortalité et la nuptialité dans le style de Goubert ou de Dupaquier, même s'il avait son caractère propre. À la suite de Vauvel, il s'est consacré à l'étude des testaments, démontrant dans « La mort à Paris » le passage d'un catholicisme baroque, hérité du Concile de Trente, à un catholicisme janséniste, plus austère et rigoureux. Il s'est intéressé aux questions de natalité, s'investissant dans des campagnes débordant le strict cadre de l'histoire et, d'un certain point de vue, il n'est sans doute pas totalement étranger, symboliquement du moins, au petit redressement démographique de la France. Il remarquait que le taux d'avortement actuel, qui correspond approximativement à 20% des grossesses, est égal au taux de mortalité infantile entre 0 et 1 an sous Louis XIV. Il est entré à l'Académie des sciences morales et politiques en 1982, où il jouera un rôle considérable, intervenant pratiquement à chaque séance, habitué qu'il était du train Caen-Paris. Il s'est ensuite fait connaître par ses interventions sur la Vendée, évitant la polémique oiseuse sur le mot « génocide ». Chaunu n'aimait qu'à moitié la Révolution française. Il différait de l'école d'Albert Soboul. Il était à cet égard plus critique encore que l'école de François Furet concernant un bilan équilibré de la Révolution. Chaunu prenait en compte les années de plomb, précédées par des apports raisonnables. À partir des initiatives de Chaunu est né le Centre vendéen de recherche historique dirigé par Alain Gérard. Il accomplit depuis 1994 un gros travail régionaliste. Pierre Chaunu était aussi un enseignant admiré par ses élèves. Il savait fasciner son auditoire grâce à l'érudition permanente de son discours. Il fut aussi un journaliste de talent, assurant longtemps une chronique au Figaro, ainsi qu'une courtoise et régulière émission de radio. Sa fécondité prodigieuse me faisait penser au Bernin, ce merveilleux artiste à qui l'on doit les plus belles sculptures du Vatican et d'ailleurs. La comparaison ne s'arrête pas là. Chaunu ne rejetait pas la culture baroque. Au meilleur sens du terme, je dirais qu'il fut peut-être lui-même un personnage baroque. C'était enfin un ami très proche. Nous nous étions rencontrés grâce à Braudel. Chaunu a toujours considéré avec beaucoup d'intérêt mes études sur l'histoire du climat. J'étais pour ma part très attentif à ses propres travaux. Tous deux Normands, partageant nos préoccupations intellectuelles, notre amitié s'est vite nouée, sans jamais se démentir. Au plan personnel, je me souviens d'un bon compagnon, plein d'humour, et ne dédaignant pas la bonne chère. Mais un décès dans sa propre famille l'avait durablement affecté. Au moment de conclure, j'en reviens au professeur d'histoire pour donner une idée du courage de ce grand homme qu'était Pierre Chaunu. Au moment le plus tragique de son deuil, il a tenu, malgré la douleur, à assurer son cours en Sorbonne par sens du devoir envers ses étudiants. Je peux dire sans exagération qu'il fut héroïque. Nous perdons en sa personne un maître de notre temps, au sens le plus profond du terme.
Vous venez d'entendre l'éloge d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur Pierre Chaunu. Je vous rappelle que les deux textes dans leur intégralité, celui du recteur Gérard-François Dumont et celui d'Emmanuel Leroy-Ladurie, sont disponibles à la lecture sur le site de Canal Académie.